déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre, nous vous présentons le père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, théologien, prieur de la communauté de Saint-Constant. La série s'intitule « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ».
Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à vous partager des extraits de mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ». Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Et on va y entrer, comme d'habitude, au moyen de la Lectio Divina. Et comme c'est l'habitude avec cette méthode, bien, nous commençons toujours par invoquer l'Esprit-Saint. Esprit-Saint, ouvre notre cœur pour que nous puissions nous ouvrir à la parole de Dieu, pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous transmettre à travers ce passage d'Évangile. Amen. Je vous lis tout d'abord ce passage que j'aime intituler « Une foi qui ouvre au pardon ». Et, étant entré dans un nouveau à Capharnaüm, après quelques jours, on entendit qu'il était à la maison. Ils s'assemblèrent nombreux, si bien qu'il n'y avait plus d'espace auprès de la porte. Et Jésus leur disait la parole. Et arrivent des gens lui amenant un paralytique porté par quatre personnes. Mais, étant incapables de le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit là où il était. Puis, ayant fait un trou, ils descendent le grabat sur lequel le paralysé est couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Enfant, ils sont pardonnés tes péchés. » Il y avait là quelques scribes assis et raisonnant dans leur cœur, « Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Et aussitôt, Jésus ayant connaissance en son esprit qu'il raisonne ainsi, il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vos cœurs? Qui est-ce qui est le plus facile? Dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Ou dire, « Lève-toi, prends ton grabat et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité de pardonner les péchés sur la terre. » Il dit au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et va à ta maison. » Et s'étant levé et ayant aussitôt pris le grabat, il sortit en face de tous, de telle sorte qu'ils étaient tous frappés de stupeur, et ils glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de tel. » Alors voilà le texte de Marc 2, 1 à 12. Notre première étape dans notre démarche est la lectio, hein, celle où on essaie de comprendre ce que dit le texte. Ben, ce qu'on voit, c'est que Jésus, de retour à Capharnaüm, après une tournée d'évangélisation dans plusieurs villes, villages de Galilée, il est entré dans la ville en secret, il s'est retiré dans une maison, possiblement là où il avait guéri là, la belle-mère de Simon, au chapitre 1. Puis Jésus pensait peut-être y être à l'abri de l'envahissement des foules, mais la nouvelle de sa présence s'est propagée comme une traînée de poudre. Et si bien que, comme au soir là, de sa première journée de ministère, ben, Jésus se retrouve aux prises avec un problème de popularité. Hein? Puis les choses ont même empiré, puisque les gens ont envahi l'intérieur de la maison, hein? Puis la porte est obstruée. Cette description-là, ça donne l'image d'un Jésus captif, qu'on dirait que la foule l'a accaparé. Mais Jésus demeure un homme libre et il prend l'initiative. Il en profite pour s'adonner à sa priorité d'annoncer la parole. Alors, nous voyons que de nouveaux personnages entrent en scène. Quatre hommes qui portent un paralysé. Alors, à première vue, on se dit, ben ça y est, tout recommence comme le soir de la guérison de la belle-mère de Simon. Les gens viennent à Jésus pour être soulagés de leur misère et non pas pour l'écouter. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du paralysé puis de ses porteurs, le texte ne parle pas d'une demande de guérison ou de quelque autre soulagement. Ce qu'on voit, c'est que l'objectif des brancardiers, c'est d'amener le malade et de le présenter à Jésus. Leur désir est d'ailleurs tellement intense qu'on voit que ça les rend ingénieux. Comme la porte est inaccessible, ben, ils montent sur le toit et ils pratiquent une brèche par laquelle ils vont descendre le brancard. Avec sa clairvoyance habituelle, Jésus perçoit immédiatement que ce groupe est animé par un dynamisme qui les distingue des autres. Jésus reconnaît que c'est la foi qui les motive. Et depuis le début de l'Évangile, hein, si vous lisez l'Évangile de Marc depuis son début, il n'avait jamais encore été question de foi. Alors, plutôt que d'être préoccupés d'eux-mêmes et d'une maladie, ce que nous voyons, c'est que les quatre porteurs du paralytique se centrent principalement sur celui en qui ils mettent leur confiance. Puis, c'est ça, hein, un authentique cheminement de foi. L'accent ne porte pas d'abord sur une recherche de soulagement, mais sur une relation. Et c'est justement le genre de disposition que Jésus reconnaît dans ceux qui ont ouvert le toit. Hein, au verset 5, on dit « Jésus voyant leur foi ». Alors, à l'évidence, Jésus est touché hein, par cette démarche et même si aucune demande lui avait été faite, il s'engage à changer le sort du paralysé. Il prend tout d'abord l'initiative de lui adresser la parole. Écoutez ce qu'il dit. Hein, au verset 5, il dit « Enfin, ils sont pardonnés tes péchés. » Étonnamment, Jésus ne lui parle pas de son état corporel, mais de sa situation de pécheur. C'est que dans la culture du monde biblique, on reliait les maladies, les handicaps au péché. On estimait que les handicaps, les maladies, que ça pouvait même constituer des punitions infligées par Dieu. C'est donc sur le plan de la relation à Dieu que Jésus intervient. Dans une perspective là, d'interprétation psychologique, moi j'aime toujours faire ça, je dirais que Jésus a devant lui un homme paralysé par la culpabilité. Il y a quelque chose dans son passé qui a bloqué la circulation de la vie. Cet homme porte un poids qui l'empêche d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? Ben, la première chose qu'il fait, ça va être avec lui de lui annoncer une bonne nouvelle. Il lui dit que sa relation à Dieu n'est pas coupée. Puis elle est même restaurée. La manière dont Jésus s'adresse aux malades, je trouve qu'elle n'est pas anodine. Bon, souvent dans les traductions francophones, le paralytique est interpellé par Jésus par l'expression « mon fils » ou « mon enfant ». Or, si nous regardons le texte grec, hein, tout le Nouveau Testament a été écrit en grec, eh bien, en grec, il n'y a pas de pronom possessif. Hein. Jésus ne dit pas « mon enfant », mais il dit « enfant, ils sont pardonnés tes péchés ». Jésus lui annonce la bonne nouvelle, dans le fond, qu'il est encore un enfant pour Dieu et qu'il est encore son enfant et que, comme enfant, il peut donc bénéficier, il peut compter sur les bienfaits de cette relation filiale. Et un de ses bienfaits, c'est de pouvoir être pardonné. Et remarquez d'ailleurs que Jésus ne lui dit pas « je te pardonne », mais « ils sont pardonnés tes péchés ». Au verset 5, on voit que Jésus ne se présente pas comme celui qui pardonne, mais comme le porte-parole du message de grâce de Dieu. Jésus annonce au paralytique ce que Dieu a fait pour lui, puisqu'il est son enfant. Il le libère des conséquences paralysantes de ses péchés. En fait, il lui donne d'expérimenter les effets bienfaisants de la proximité du règne de Dieu. Vous êtes toujours en compagnie du Père Michel Proulx, chanoine régulier de Prémontré. Nous continuons à explorer des extraits de mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'évangile de Marc » publié chez Médiapol. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur Marc chapitre 2, les versets 1 à 12, la guérison d'un paralytique, et nous poursuivons la lectio. Alors, ce que nous voyons, c'est que l'intervention de Jésus auprès du paralytique, puis surtout ses propos, où est-ce qu'il a dit que ses péchés étaient pardonnés, c'est loin de plaire aux scribes. C'est la première fois dans le déroulement de l'évangile de Marc que des représentants de ce groupe-là entrent en scène. Et leur présence va donner lieu à une première controverse. Tout au long de l'évangile, ils apparaissent comme, je dirais, les véritables adversaires de Jésus. Les scribes, ben, c'était des spécialistes de l'interprétation de la loi de Moïse. Et Marc nous dit qu'ils sont assis. Ça, c'était la position typique dans laquelle l'enseignement était dispensé dans le judaïsme au 1er siècle. Alors, en les présentant assis, ben, l'évangéliste laisse entendre qu'ils ne sont pas venus avec l'ouverture de ceux qui veulent apprendre, mais plutôt avec une attitude critique. Même s'ils n'en laissent rien paraître, là, extérieurement, ils sont scandalisés par ce que Jésus a dit. Puis étant donné que le péché, c'est une offense contre Dieu, ben, les scribes estiment qu'il y a juste Dieu qui peut accorder le pardon. Et en connaisseurs des Saintes Écritures qu'ils sont, ben, ils savent que le Messie attendu, ben, il n'était pas supposé jouer de rôle là, dans l'absolution des péchés. Alors, ils estiment que Jésus, c'est une espèce de prédicateur improvisé qui a comme subtilisé la place de Dieu. Il a dit des paroles que Dieu seul a la légitimité de prononcer. Alors, eux autres, les scribes, ils se prennent pour les défenseurs des droits du Dieu d'Israël, mais est-ce qu'ils ont bien écouté ce que Jésus a dit, hein? Jésus n'a pas prétendu être la source du pardon, mais plutôt le messager d'une bonne nouvelle. Alors, sans que les scribes expriment quoi que ce soit, Jésus se rend bien compte qu'ils le désapprouvent. Alors, il prend l'initiative d'entrer en dialogue avec eux autres, puis essaie de les faire réfléchir. Hein, il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous raisonnez ainsi en vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Dire au paralytique « tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « prends ton grabat et marche ». Hein, Jésus a bien perçu que les scribes ne le prennent pas au sérieux dans ce qu'il vient d'annoncer. Annoncer le pardon divin, c'est beaucoup plus facile parce que ça ne se vérifie pas. Hein? Pour les scribes, Jésus a pris la voie facile. Plutôt que d'opérer une guérison dont les effets seraient visibles, il a prononcé une parole qui est invérifiable. Hein? On ne peut pas contacter Dieu et dire « Est-ce que c'est bien vrai, Dieu, que tu as pardonné? » Alors, eux trouvent qu'il n'y a pas de preuve de ce que Jésus dit. Et puis, il leur apparaît comme un faux prophète. Mais Jésus ne laissera pas le temps aux scribes de répondre. Il va plutôt justifier sa position. Hein, au verset 10, il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité de pardonner les péchés sur la terre. » Voyez-vous, Jésus s'apprête à accomplir une guérison. Et cette guérison, ce sera la confirmation visible du pardon des péchés. Et par la même occasion, Jésus fait valoir que le Fils de l'homme, il a reçu cette autorité de pardonner les péchés. Il ne prend pas la place de Dieu, c'est le Père qui lui a confié la mission d'offrir le pardon. Alors, à la suite de ces paroles, Jésus se tourne à nouveau vers le paralysé, puis il l'interpelle directement. Il lui dit, c'est au verset 11, « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et va à la maison. » Alors, Marc nous donne d'entendre la parole d'autorité qui devrait mettre cet homme-là debout. Mais là, toute la question, c'est de savoir, est-ce que cette parole va bel et bien produire ce qu'elle annonce? Et c'est super important parce que la crédibilité de Jésus est mise en jeu. Est-ce qu'il est vraiment celui qu'il prétend être? Est-il vraiment le Fils de l'homme? Marc nous fait pas languir et il décrit le résultat au verset 12. Je le cite, « Et s'étant levé, et ayant aussitôt pris le grabat, il sortit en face de tous. » Ah! À la grande surprise des témoins, voici que l'homme se met effectivement debout. Dégagé du poids de ses péchés, du poids de la culpabilité, ben l'homme est maintenant capable de se lever. Et pour exprimer cette action, Marc emploie un verbe qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour évoquer la résurrection, hein, tant celle de Jésus que celle espérée par ses disciples, hein, se mettre debout. Alors voyez-vous, en absolvant le grabataire de ses péchés, en lui annonçant la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, Jésus a fait circuler à nouveau la vie en lui. Et remarquez que le malade, il a eu sa part d'effort à faire. Il a choisi d'obéir à cette parole qui lui était adressée par Jésus. Il aurait bien pu douter puis se dire, ben voyons donc, moi je suis paralysé depuis tant d'années, c'est pas possible que je me mette debout, qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, tenter de se mettre debout, ça suppose une option de foi en la parole de Jésus. Ça veut dire qu'il a choisi de croire. C'était déjà une option de foi avec les quatre hommes de se laisser, de faire toute cette démarche d'aller se présenter à Jésus. Mais ici, il a eu une deuxième option de foi à faire, celle de risquer, de tenter de se mettre debout. Ce qu'il a fait, et ça montre une obéissance en la parole. Et je dirais, ça produit du fruit. Il est capable, le voici, remis debout. Par ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que ce n'est pas étonnant que Jésus lui demande de partir immédiatement pour retourner chez lui? Hein, Jésus ne lui dit pas, ben, reste avec moi, continue à m'écouter, ou bien viens, suis-moi. Non. En définitive, Jésus l'invite, dans le fond, à aller de l'avant. C'est comme si cet homme-là, à cause de sa paralysie, a fait du surplace trop longtemps dans sa vie et c'est urgent pour lui de passer à l'action, de prendre sa vie en main. Et dernier élément à remarquer dans notre lectio, pour terminer l'exploration de notre récit, c'est que en quittant le lieu, en portant lui-même sa civière, ce que nous voyons, c'est que l'ex-paralytique, il manifeste aux yeux de tout le monde que Jésus a dit vrai. Et l'évangéliste conclut son récit en écrivant « Ils étaient tous frappés de stupeur et ils glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de tel ». Alors, les gens semblent avoir bien compris que c'est Dieu qui a agi à travers Jésus. Parce que remarquez qu'on dit qu'ils rendent gloire à Dieu et non pas à Jésus. Eh bien voilà, nous venons de terminer notre première grande étape de la démarche de la Lectio Divina, qui est celle qu'on appelle la Lectio, qui vise à essayer de comprendre que dit le texte. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Galilée, avec Michel Proulx qui vous accompagne. Nous poursuivons l'exploration de mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'évangile de Marc », publié chez Médiapôle. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le passage de l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets 1 à 12, où Jésus guérit un paralysé. Nous sommes arrivés à l'étape de la méditatio. Alors, dans ce récit, la foi du paralysé puis de ses quatre porteurs, on a vu, ils ont une foi remarquable, une foi active, une foi ingénieuse, qui a permis aux paralysés de s'approcher de Jésus. Hein. Ils sont allés jusqu'à découvrir un toit pour descendre le malade devant lui. Alors, c'est vraiment exceptionnel d'ingéniosité. Leur désir de se présenter devant le Seigneur, on voit que ça les a rendus créatifs, inventifs. Puis, ils sont arrivés, malgré les obstacles, à trouver un espace rendant possible une prise de contact avec Jésus. Hein, ils ont créé un espace pour le malade. Eh bien, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a là-dedans une interpellation qui est adressée à notre propre désir de nous approcher du Seigneur? Bon, nous autres, est-ce qu'on a un désir aussi intense? Hein? Où on en est dans notre désir de s'approcher du Seigneur? Bon, ça, c'est déjà une question. Mais une autre interpellation, me semble-t-il, c'est qu'encore aujourd'hui, il y en a des obstacles qui peuvent se dresser devant nous pour nous approcher du Seigneur. Puis, un des obstacles qui peut y avoir, en tout cas que moi j'ai dans ma vie puis que je rencontre dans mon ministère pastoral avec les gens avec qui j'ai l'occasion d'entrer en contact, c'est l'obstacle d'un agenda surchargé. Les occupations, les préoccupations peuvent être tellement nombreuses qu'il n'y a plus tellement d'espace pour approcher le Christ dans la prière ou dans la méditation des Écritures. eux autres, ce qui les avait empêchés d'approcher de Jésus, c'était une foule. Mais nous autres, je dirais qu'on est empêchés par une foule d'activités qui peuplent notre agenda. Ce qu'on a vu dans notre récit, c'est que les porteurs du paralysé, ils font une brèche dans le toit, hein, ils font un trou pour créer de l'espace. Alors, ça nous pose la question, et nous, hein, nous autres, quelle brèche est-ce que nous pourrions faire dans notre agenda, au milieu de nos activités, de nos loisirs, pour nous approcher du Seigneur Jésus, puis pour être en mesure d'écouter sa parole? Parce que c'est sûr que si on ne s'approche pas de lui, s'il n'y a pas d'espace pour écouter sa parole, bien, c'est sûr que sa parole ne pourra pas avoir d'effet sur nous. Nous avons vu comment la parole de Jésus a eu de l'effet sur le paralytique, comment elle l'a redressé, elle l'a remis debout, relancé dans la vie. Bien, si on ne s'offre pas la parole, bien, on ne pourra pas bénéficier des effets qu'elle pourrait avoir sur notre vie, de ces effets surprenants, ces effets vivifiants. Par ailleurs, je trouve que c'est donc touchant d'entendre proclamer cette bonne nouvelle de la miséricorde du Père. Hein. Jésus lui a dit « Enfant, tes péchés sont pardonnés ». Eh bien, cette heureuse annonce de la miséricorde, je trouve donc que c'est réjouissant pour le cœur. Puis c'est réjouissant pour nous autres aussi si on l'accueille. Parce que cette miséricorde-là, elle est aussi offerte à chacun de nous. Et ce récit montre bien que Jésus est médiateur du pardon de Dieu pour nous. Il nous fait comprendre que Dieu nous veut debout, dégager du fardeau d'une culpabilité qui paralyse. Et même après 2 millénaires, nous autres aussi, on peut entendre Jésus nous dire « Tes péchés sont pardonnés ». Ces paroles-là, par exemple, un des lieux privilégiés, c'est pas le seul, mais un des lieux privilégiés pour l'entendre, c'est le sacrement du pardon, alors que le prêtre participe là, par délégation à l'autorité que Jésus a reçue du Père. Hey, c'est une grande grâce. Et l'occasion nous est offerte de vivre, je dirais, une expérience qui est comparable à celle du paralysé. Hein, l'expérience, grâce à la miséricorde, d'être relancé vers l'avant, en mettant notre foi en Jésus, mais en obéissant à sa parole. Ça nous conduit à notre dernière étape de notre Lectio Divina d'aujourd'hui, qui est celle de l'oratio. Oratio, qui veut dire la prière. Alors, nous prions à partir du texte. Alors, disposons-nous à la prière. Je vous invite à faire vôtre cette prière, à l'adapter dans votre cœur, à votre propre situation. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour cette bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. C'est bien vrai que ce pardon du Père nous remet debout, qu'il nous soulage du fardeau des péchés. Quelle grâce d'être en relation avec toi, Jésus, qui est la miséricorde du Père. Merci, Seigneur Jésus, de ton accueil miséricordieux. Merci pour ce pardon que tu offres encore aujourd'hui à tous ceux et celles qui s'approchent de toi. Dieu notre Père, merci de faire de nous tes enfants. Merci de nous aimer au point d'envoyer ton Fils nous pardonner, nous libérer de nos paralysies spirituelles. Les 4 porteurs du paralysé ont été créatifs. Mais je reconnais que toi, Dieu le Père, tu l'as été toi aussi. Tu as trouvé un moyen original pour t'approcher de nous. Tu es venu à nous par le moyen inédit de l'incarnation. Tu nous as visités par ton Fils éternel qui s'est fait l'un de nous en la personne de Jésus. Ton désir de nous rencontrer devait être bien grand. En terminant, nous nous tournons vers toi, Esprit Saint. Fais grandir en moi la foi. que ma foi soit comme celle de ce paralysé, de ses porteurs. Aide-moi, Esprit Saint. Je te demande humblement ce soutien. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine et nous nous retrouvons très bientôt.
Déroulement du livre, vous venez d'entendre le Père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, auteur de l'ouvrage « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc », paru aux éditions Médiapol.